Deux occasions à Dijon pour écouter un chef-d'œuvre, un monument, que dire, enfin bref, une grande œuvre de musique sacrée, la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Deux moments, premier concert ce samedi à 20h et le second ce dimanche, le lendemain donc, dans l'auditorium de l'Opéra de Dijon. La Capella Mediterranea et le chœur de Namur sont placés sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón et on est en ligne avec Valerio Cantaldo. Vous êtes ténor, ce n'est pas la première fois que vous allez donner cette messe en 6 sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón.
Non, ce n'est pas la première fois. Je l'ai chanté avec lui l'année dernière à Lausanne, dans le cadre du Festival Bach, en novembre 2017, à la cathédrale de Lausanne, donc dans un lieu sacré, dans une cathédrale. Et voilà, là c'est la première fois que j'interprète la messe en 6 dans un théâtre.
Certains s'interrogent sur le choix de ce lieu. On est assez peu habitué à entendre de la musique sacrée dans un lieu hautement profane.
Moi, je trouve qu'il y a une dimension universelle dans cette musique. Donc, il n'y a pas seulement une dimension sacrée. Évidemment, elle est omniprésente dans toute la musique de Bach, si on veut. Mais il y a aussi une dimension absolue de musique aussi dans cette œuvre particulièrement, puisque c'est aussi une œuvre qui contient une espèce de résumé de tous les langages de Bach, quoi, si on veut.
Un résumé particulièrement long tout de même.
Oui.
L'ensemble dure un petit peu moins de 2 heures. Alors, c'est peut-être de parfait mauvais goût, mais tant pis, j'assume. John Elliott Gardiner peut la diriger en 1h45. Mark Minkowski est un peu plus long, en 1h47. Philippe Hervec va plus vite, par contre, 1h42. Et puis, je vais m'arrêter là parce que la musique, quand même, ne se mesure ni au kilo, ni au mètre. Est-ce que c'est un côté un peu performance, tout de même, aussi, pour les musiciens?
Oui, il y a un côté performance parce que c'est une œuvre très exigeante, mais au final, c'est pas une performance en tant que telle. C'est une œuvre qui permet de communiquer tellement de choses, tellement d'état d'esprit, de sentiments. Donc pour moi, il n'y a pas, au final, c'est pas une performance. On est nourri aussi par cette musique.
En préparant notre conversation, Valerio Cantaldo, j'ai eu quelques lectures. Alors, par exemple, j'ai lu un moment de détente à l'Opéra de Dijon, où j'ai lu aussi frissonner au doux son de la musique. Ça me semble un peu décalé, donc, par rapport à la musique dont on parle.
Oui, je trouve la définition un peu décalée, parce que résumer toute cette œuvre à un moment de détente, je trouve ça vraiment très, très réducteur, parce que, comme je disais auparavant, c'est une espèce de voyage à travers tellement de d'état d'esprit, de sentiments, de problématiques aussi liées à la foi, que sais-je. Donc, un moment de détente, il y a des moments d'apaisement, des moments où on se sent soulagé par même à travers le texte, et comment le texte est mis en musique, mais il y a aussi des moments de souffrance, des moments de jubilation. Ce sera de toute manière un moment très riche. Et pas seulement un moment de détente.
Œuvre complexe pour les musiciens et pour l'auditeur, et puis peut-être aussi, vous venez de faire allusion, et c'est normal s'agissant d'une messe, à la fois au côté spirituel des choses. C'est une messe qu'on pourrait difficilement jouer lors d'un office catholique, écrit par un protestant, et pourtant il ne s'agit pas non plus d'un office luthérien. Est-ce que c'est pas une sorte d'œuvre sacrée un peu à part?
Moi, je pense que c'est une œuvre sacrée très à part. Parce que comme vous l'avez dit, c'est une grande controverse parmi tous les musicologues aussi. Est-ce que c'est une œuvre luthérienne, est-ce que c'est une œuvre catholique? Ni l'un ni l'autre, quelque part. Même si le credo, le symbolum nicenum, est accepté en grande partie par les luthériens, c'est pas vraiment le credo luthérien, ni le credo catholique. Donc, c'est une œuvre spirituelle. Quelque part, on pourrait dire aussi, qui sait, peut-être une affaire entre Bach et Dieu.
C'est une œuvre de fin de vie.
C'est une œuvre de fin de vie. Pas toute l'œuvre, puisqu'il y a une première partie qui a été composée bien avant, en 1733, le Kyrie et le Gloria. Et d'ailleurs, il en existe d'autres de ces messes luthériennes, en tout cas 4. J'en ai interprété 4 dans ma vie, donc je me souviens de celles-là, qui contiennent un Kyrie et un Gloria, qui correspondent aussi à ce que le culte luthérien accepte. Et le credo, qui est un peu la pierre d'achoppement de toute la liturgie, ça va compléter cette messe en 6. Je pense qu'il voulait, à la fin de sa vie, aussi avoir un, un tableau complet de la messe, du texte complet de la messe romaine quelque part, même si avec des influences luthériennes.
Valérian Cantalo, j'ai à peine évoqué quelques noms tout à l'heure, histoire de me livrer à une bête analyse chronométrique. Mais c'est vrai que, bon, alors, Corboz, Jordi Savall, John Elliott Gardiner, Minkowski, Herweg, beaucoup de grands, de très grands, se sont attaqués, si je veux dire, à la Messancy. Il y en a même qui n'osent pas l'aborder. Qu'apporte, selon vous, Leonardo Garcia Alarcón, qui propose parfois des interprétations assez inattendues?
Oui. Moi, je pense, dans cette œuvre, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de totalement inattendu. En tout cas, du point de vue musical. Parce que quand Leonardo Garcia Alarcón aborde cette messe, il reste très proche du texte, très proche de ce que Bach a écrit. Donc, moi, je vois pas de surprise à l'horizon.
Peut-être parce que la partition est plus complète que d'autres œuvres qu'il a pu déjà diriger, voire compléter.
Alors, certainement, si on songe aux opéras de cavale qu'il a dirigés, les opéras de cavale, vous savez peut-être, consistent souvent en seulement une ligne de chant, une ligne de basse, donc il y a toute une instrumentation à compléter. Donc forcément, là, ça demande un travail d'interprétation et d'édition, entre guillemets, qui met le chef plus au centre du travail. Alors que là, je veux dire, l'œuvre est déjà complète et elle va couler de source quelque part.
Au bout du compte, pour le musicien, c'est une œuvre qui attire, c'est une œuvre qui fait peur, qui fait réfléchir ou qui procure un vrai plaisir?
Ah ben, je répondrai tout ça à la fois. Parce que c'est une œuvre qui fait réfléchir. Je l'ai interprété plusieurs fois, même avec certains des noms que vous avez évoqués, Michel Corbeau, Marc Minkowski, même dans des configurations différentes, avec seulement 10 chanteurs, par exemple avec Marc Minkowski. À chaque interprétation, quel que soit le chef, je trouve toujours des moments de réflexion dans la partition, des moments de presque miraculeux où on se dit mais c'est incroyable qu'est-ce qu'il a réussi à dire, c'est des choses que je n'ai pas entendues avant, et je pense que c'est une de ces œuvres qui mûrissent tout au long de la vie d'un musicien, qui peuvent accompagner la vie d'un musicien, et le musicien ne se lasse pas.
Si vous aviez un conseil à donner à un auditeur moyennement averti, avant de venir vous écouter en concert, quel conseil lui donneriez-vous? Comment aborder cette messe en si?
Très bonne question. Peut-être si l'auditeur n'est pas particulièrement croyant ou particulièrement religieux, peut-être une lecture au texte, une petite réflexion sur la signification du texte et des versets de la messe, parce qu'il peut donner une clé d'écoute de l'œuvre, parce que le Bach est toujours un compositeur qui est proche de la symbolique. Je pense que ce serait nécessaire de faire le lien entre le texte et la musique et de voir comment Bach a réussi à traduire en musique la symbolique ou les affects ou les états d'esprit, les états d'âme, la souffrance, la jubilation, etc. Ce serait juste un premier jalon pour essayer d'appréhender au mieux l'œuvre.
Et si on est plus averti?
Si on est plus averti, si on a déjà écouté l'œuvre, se laisser emporter par toute cette variété de d'instruments, de couleurs, d'écritures parfois surprenantes, miraculeuses, je dirais, par moments.
Bach, messe en si. Ce samedi 20h, dimanche 15h, auditorium de l'Opéra de Dijon, boulevard de Verdun. Information au téléphone, et pourquoi pas réservation, au 03 80 48 82 82.